Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, c'est Cinérama. Une émission aujourd'hui avec des films qu'on a plutôt beaucoup aimés. Marine.
Oui, tout à fait. Moi, je vais vous parler des Garçons sauvages, premier long métrage de Bertrand Mandico, et de Lady Bird de Greta Gerwig.
Et puis toi, Manu.
Les oiseaux, la reprise du film d'Hitchcock, et puis Criminal Squad.
Et puis, ce sera l'occasion, cette ressortie d'Hitchcock, de faire un blind test avec eh bien, des films de la filmographie du réalisateur britannique. Moi, je vous parlerai de La fête est finie, un premier long métrage qui raconte comment eh bien, deux jeunes femmes bien différentes tentent de prendre le dessus sur la drogue, et puis de Call Me By Your Name, une histoire d'amour et de désir entre un adolescent et un jeune adulte. Mais on débute avec Lady Bird.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Oui, Lady Bird de Greta Gerwig. Christine est une adolescente fantasque, étonnamment sûre d'elle, au point qu'elle se soit auto-baptisée Lady Bird. Elle se débat du haut de ses 17 ans avec les problèmes propres à cet âge-là et se persuade qu'elle n'aura pas la même vie que sa mère. Elle et sa famille habitent à Sacramento, ville de Californie, présentée comme l'enfer sur Terre. Son père est sans emploi et sa mère infirmière, dotée d'un caractère plutôt coriace qui l'oppose en permanence à sa fille. En rébellion contre sa condition modeste, Lady Bird veut partir étudier dans une grande université, malgré un certain déterminisme social selon lequel sa place serait plutôt eh bien, dans une fac gratuite et sans envergure. Au cours de cette dernière année de lycée, Lady Bird va découvrir le théâtre, l'amour, les déceptions et trouver la force de changer le cours de sa vie. Alors on parle déjà beaucoup de la présence de Lady Bird aux Oscars, nommée dans 5 catégories et qui pourrait même bien remporter l'Oscar du meilleur film, d'autant que sa réalisatrice Greta Gerwig est la seule femme en lice pour la récompense en ces temps perturbés où Hollywood affronte enfin les problématiques du sexisme. Alors je dois avouer que je n'ai pas trop compris l'engouement autour du film, Lady Bird étant un teenage movie indé plutôt convenu, dans le sens où il nous est assez facile d'imaginer l'enchaînement des situations et l'évolution des personnages qui sont certes attachants et très bien incarnés, mais pas réellement surprenants. La relation contradictoire et contrariée entre une adolescente pleine d'envie et une mère aimante mais maladroite est certes très juste, mais surtout terriblement banal, et tout comme le traitement des premières amours ou les intrigues liées à la recherche de popularité de l'héroïne. Le casting néanmoins est excellent. Greta Gerwig ayant choisi pour interpréter ce personnage très autobiographique une jeune comédienne venue du blockbuster Saoirse Ronan, qui s'est depuis racheté une crédibilité indé. Le film est également intéressant pour ce qui est de son aspect social. Il aborde notamment la question de l'éducation aux États-Unis, qui s'avère extrêmement clivante, puisque vous ne pouvez espérer avoir accès à de bonnes études que si votre famille est suffisamment aisée. C'est l'aspect le plus sensible et le plus pertinent de ce Lady Bird, qui se contente autrement de ressasser les poncifs des comédies d'où sa mère adolescente. C'est un joli petit film, bien réalisé, plein de bonnes intentions, qui se regarde sans déplaisir, mais sans la sensation non plus d'avoir affaire à un chef-d'œuvre.
Donc, pour les Oscars, c'est mal parti alors.
Oh bah, c'est pas celui-là que je donnerais, en tout cas, l'Oscar du meilleur film, vraiment pas.
Alors, il est aussi en compétition aux Oscars, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. On en parle maintenant.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
L'acteur Timothée Chalamet, qui est dans Lady Bird aussi, tout comme le film dans lequel il joue, Call Me By Your Name, crée la sensation en ce moment aux Oscars. Le film de l'Italien Luca Guadagnino est en effet nommé dans 3 sections. Alors meilleur film, c'est pas mal, meilleur acteur, bon signe, et puis meilleur scénario adapté, là encore un bon indice, qui dit adaptation dit livre. Call Me By Your Name est adapté du premier roman de l'Américain André Aciman, une adaptation signée James Ivory, le réalisateur des Vestiges du Jour et Mr. and Mrs. Bridge notamment. Alors nous sommes en 1983 en Italie du Nord, alors c'est l'été, Elio, jeune homme de 17 ans, passe ses vacances dans la maison familiale entouré de ses parents et des domestiques. Un été tranquille, à jouer du piano, à flirter avec son ami Marzia, se baigner, lire et lire encore. Avec ça, ses parents sont bienveillants, son père est un talentueux professeur spécialiste de la culture gréco-romaine et sa mère traductrice. Alors tous deux sont proches de leur fils et dans cette maison de vacances, eh bien, on parle français, anglais, italien et chez les Perlman, l'ouverture d'esprit est totale, une certaine élégance et douceur de vivre émane de cette introduction. Mais le film de Luca Guadagnino ne s'intitule pas Un été chez les bourgeois. Cette quiétude va être mise à mal par l'arrivée d'un étudiant américain venu travailler aux côtés du père d'Elio. Un thésard athlétique qui déboule dans une décapotable rouge. Oliver est interprété par Armie Hammer. Alors ça, ça va te faire plaisir, Marine, c'est la fusion de Michael Fassbender, d'accord, mais aussi de Christopher Lambert. Donc, mais Christopher Lambert, 83, voilà, parce qu'on est dans un film de 83. Alors on l'a surtout vu dans Agents très spéciaux, Code Uncle. Alors d'emblée, cette présence, eh bien, cet Américain plein d'assurance, hein, bien dans son corps, va le perturber. Et Elio, mûr pour son âge, avoue sans peine, hein, qu'il n'est pas très en avance sur le plan sexuel. S'il flirte avec la jeune Marcia, il n'a pas encore osé. Dès lors, le film va basculer de la description d'un été dans un univers bourgeois à l'éducation sentimentale et sensuelle d'un jeune garçon, subjugué par son attirance et sa répulsion aussi, hein, pour cet hôte plus âgé que lui. Ainsi, les deux êtres qui prosaïquement partagent une salle de bain vont se chercher, se repousser, se surprendre, se frustrer et finir par se trouver. L'été va donc reprendre son cours avec un film narratif de premier plan. Et ce qui frappe dans la mise en scène de l'Italien, c'est la douceur d'un été baigné par une lumière alors délicate et la simplicité qu'il met en œuvre. Hein, les balades d'un vélo, les plongeons dans la rivière, les joutes verbales. À mesure que l'on avance, il se concentre sur la montée du désir et la sensualité en érotisant parfois les corps sans sacrifier l'univers estival, la chaleur sans qu'elle soit étouffante, les nuits enveloppantes, les hôtes qui défilent, soit l'occasion de bons repas, les siestes langoureuses ou encore eh bien, le bal du village. Une mise en forme classique qui cache un propos moderne sur une histoire d'amour entre deux hommes. Ce qui est à voir à l'écran est d'une grande finesse. On y trouve des dialogues éclairants et quasi savants, hein, sur le désir, la beauté, au travers de la découverte de sculpture d'Éphèbe dans les eaux italiennes. Mais rien n'est non plus intellectualisé. C'est aussi une des forces de ce film qui sait parfaitement manier des dialogues sérieux et nourris et l'évocation du désir. Le réalisateur utilise la métaphore de la pêche, le fruit, hein, dans une scène des plus crues du film pour éluder l'acte homosexuel. Les fruits ont leur importance ici, hein, parce que la mère d'Elio aime les cultiver. Et Oliver, l'étudiant américain, boit les jus d'abricot cul sec quand Elio s'empare d'une pêche comme d'un fruit défendu. Alors on pourrait reprocher à Call Me By Your Name son rythme peut-être un peu lent, sa douceur précisément, que j'évoquais tout à l'heure, mais cette torpeur estivale traversée par le désir vaut le coup qu'on attende la toute fin pour entendre le dialogue du père d'Elio à son fils qui est d'une rare pertinence, empruntant ses mots à Montaigne et la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Alors quasi tournée en plan séquence, cette séquence orchestre l'émotion d'un fils et les propos d'un père éclairé, ouvert et aimant. Alors on est bien dans un film et ici le discours produit de l'émotion, une émotion qui ne nous lâchera plus, alors jusqu'à la toute fin. Call Me By Your Name est autre chose qu'un film sur l'homosexualité, c'est aussi un portrait d'adolescent, c'est également bien celui d'une cellule familiale unie et bienveillante, mais encore, c'est la description d'un désir brûlant qu'il faut apprendre à connaître et accepter. Les acteurs sont excellents, et ils sont bien dirigés, ce qui veut dire que bah, pour moi c'est une vraie réussite ce film. Je ne sais pas s'il remportera les Oscars, mais en tout cas notamment cette conversation entre le père et son fils à la fin, mais c'est tourné admirablement et d'une pertinence telle que l'émotion est vraiment forte. La musique a aussi son importance, on en trouve beaucoup et très variée. Alors d'accord, il y a Paris Latino, Bandolero, mais ils ont puisé aussi dans 1983 ceci. Voilà, vous êtes à retour dans l'été 83, mais vous pouvez aussi vous trouver au contact d'une cantate de Bach. Alors Bach, évidemment, parce que Elio, le jeune interprète, eh bien, joue du piano. Alors, puisqu'on est dans un film italien, ben, on entend aussi des musiques italiennes.
Et i commercianti punici prendevano sentieri di montagna.
Et tchaka tchaka tchak. Et puis enfin des chansons de Sufjan Stevens, qui compose alors une grosse partie de la bande originale. Voilà, ça c'était pour parler de la musique de ce film Call Me By Your Name, qui est en compétition donc aux Oscars, qui est peut-être un prétendant et qui est aussi sur les écrans, eh bien depuis le 28 février.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Nous sommes en pleine guerre, Sam.
La guerre? Contre qui? Contre les oiseaux.
Bah de quoi on va parler?
Des oiseaux. Alors j'ai lu quelque part sur un site, hein, le classique de Hitchcock ressort en version restaurée numérique pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Alors oui, on veut bien, mais il y a quand même des chances que les cinéphiles l'aient vu quand même un certain nombre de fois, avec l'intérêt de ressortir un tel monument du cinéma et de donner envie aux jeunes générations de découvrir les oiseaux comme jamais personne n'a pu le voir. Alors, dans une superbe copie, certes, mais il existe aussi déjà un très beau Blu-ray qui était sorti à l'occasion des 50 ans du film. Là, c'est les 55 ans. Ouais, bon. Alors, quel argument peut-on avancer pour susciter le désir? Le premier et le plus évident reste la structure narrative d'une modernité et d'une intelligence qui devrait rendre jaloux tous les apprentis, réalisateurs et scénaristes. Alors, adapté d'une nouvelle de Daphné du Maurier, dont Hitchcock avait déjà porté à l'écran Rebecca, le scénario des oiseaux est confié à un certain Evan Hunter, pseudonyme en réalité de l'écrivain Ed McBain, qui est un auteur d'excellents polars. Dans quelle mesure Hitchcock est-il intervenu dans le processus d'écriture? Bon, on ne le saura jamais, mais Les Oiseaux reprend à son compte la structure narrative de Psychose en détournant l'attention du spectateur de ce pourquoi il est venu. Alors un peu comme pour Titanic en l'occurrence, qui fonctionne parce que le spectateur est happé par une histoire à l'intérieur de l'histoire. Alors, donc pour Les Oiseaux, c'est un peu la même configuration. Au début, Mélanie Daniels, l'héroïne, hein, une jeune femme sophistiquée, rencontre dans une animalerie spécialisée dans les oiseaux un séduisant avocat, Mitch Brenner, qui cherche des inséparables, lovebirds en anglais. Alors, liés par une histoire commune, ils se disputent gentiment tout en se faisant la cour et Mitch part sans ses oiseaux. Par jeu, Mélanie décide de lui amener à Bodega Bay, une jolie bourgade près de la mer, ses oiseaux. Donc. Alors, non sans ironie, hein, on remarquera les oiseaux en cage au début comme un signe de ce qui pourrait arriver ultérieurement. Hitchcock nous embarque du côté de la romance matinée du drame familial psychologique en dressant le portrait d'une mère, celle de l'avocat, possessive et inquiétante. Alors Hitchcock commence par développer une intrigue qu'il va abandonner volontairement à mi-parcours. Certes, quelques signes nous alertent rapidement, comme cette mouette qui attaque Tippi Hendren sur la barque, mais cette construction est habile et assez moderne. Elle nous distrait pendant une quarantaine de minutes, évitant les expositions laborieuses et l'ennui qui s'ensuit des habituels films fantastiques à tendance catastrophe. L'intelligence du script, ensuite, est de ne donner aucune explication aux agissements insensés de ces bestioles volantes, en se moquant même gentiment de l'ornithologue, hein, seule caution scientifique du film.
Les mouettes sont des charognards et les oiseaux le sont pour la plupart. Procurez-vous des fusils et balayez-les de la surface de la Terre.
Cela serait difficilement possible.
Et pourquoi, Madame Bundy?
Eh bien, parce qu'il y a 8650 espèces d'oiseaux dans le monde aujourd'hui, Monsieur Carter. On estime que 5,750,000,000 d'oiseaux habitent les États-Unis seulement. Sur les 5 continents du monde,
il y en... Tuez-les tous, débarrassez-vous de ces sales bêtes.
Il existe plus de 100 milliards d'oiseaux, c'est certain.
Et c'est la fin du monde.
Les mouettes devaient en avoir après le poisson.
Naturellement.
Dépêchez-vous, les enfants, finissez vite.
Est-ce que les oiseaux vont nous manger, maman?
Peut-être qu'on se laisse tous un peu emporter par cette affaire. Faut avouer que...
Cela arrivait, nous serions tous perdus. Comment pourrions-nous les combattre?
Quelques oiseaux seulement. Ce sont des mouettes, ce sont des corbeaux, des hirondelles.
À ma connaissance, les oiseaux de différents plumages ne s'assemblent jamais. C'est absolument inconcevable. Parce que si cela arrivait, nous serions tous perdus. Comment pourrions-nous les combattre?
On ne pourrait pas, je suis de votre avis. Vous avez raison, Madame Bundy.
Donc ce qu'elle dit, c'est que c'est impossible. Hein. Donc il n'y a rien d'expliqué.
Et ça fait peur aux enfants.
Voilà. Alors rien de fumeux donc n'est avancé. Hein. Toutes les interprétations sont plausibles, y compris celle qu'au casque, que ce serait donc Mélanie, l'héroïne, qui serait responsable de ce dérèglement écologique qui correspond à son arrivée. Alors, mais ce scénario d'équilibriste ne serait rien sans la mise en scène brillante et épurée du maître, hein, qui aligne des morceaux de bravoure sans esbrouf. À ce titre, la séquence certainement la plus connue, hein, où Mélanie attend sur un banc pendant que les oiseaux se posent derrière elle sur l'aire de jeu, est un modèle de suspense. Le dispositif reste hypnotique et assez flippant. Pas besoin, au fond, d'aligner les effets spéciaux démentiels. Hein. À ce titre, les effets de Dube Iwerks, qui a travaillé chez Disney, restent parfaitement crédibles parce que Hitchcock a la lucidité de ne pas s'y attarder, sachant très bien qu'un effet, même spécial, vieillit. Les cinéastes devraient réfléchir à cela aujourd'hui, hein, au lieu de nous en mettre plein la vue pour pas grand-chose au final. Alors, le mélange de prises de vue réelles, d'effets d'optique et d'animation en surimpression et aussi d'oiseaux animés traverse plutôt bien le temps et devrait contenter un jeune public qui sera peut-être un peu moins clément, en revanche, devant le jeu peut-être un peu daté de Tippi Hendren et surtout du fadas Rod Taylor. Alors Hitchcock saisit parfaitement l'ambiance de bord de mer grâce à ses décors naturels impressionnants, son sens du découpage et du cadrage, il n'y a pas un plan de trop, et en omettant, hors générique, la moindre musique, le silence ne fait qu'accentuer le climat angoissant, focalisant le spectateur sur les différents sons, et notamment le cri des mouettes, alors je sais pas, il y a des goélands, corbeaux, corneilles, moineaux, bouvreuils, et bruants, ou aussi le fracas des oiseaux contre les vitres. Alors 55 ans après sa réalisation, hein, Les Oiseaux est toujours ce chef-d'œuvre limite expérimental, hein, mêlant fantastique et catastrophe, inspiration majeure d'un demi-siècle de cinéma de genre, à commencer par Les Dents de la Mer, ou encore une petite série B comme Les Insectes de Feu. Et pour info, il y a eu un remake télé du film réalisé par Rick Rosenthal en 92, et dans lequel apparaissait aussi Tippi Hedren dans un tout petit rôle.
Voilà, donc 55 ans après sa première sortie, il ressort dans certaines salles seulement françaises, les cinémas qui auront le courage de le ressortir. Et nous, ça nous donne l'occasion, Les Oiseaux, de jouer un blind test spécial Alfred Hitchcock, qui en est quand même à 50, il en a fait 53 longs métrages. Donc on a pris quand même les plus faciles, et on commence justement par très facile.
Je dois avouer que ces suggestions, je m'en suis déjà faites. Mais l'idée même me fait horreur. Sans moi, elle serait désemparée. Ce n'est pas du tout comme si elle était folle alliée. De temps en temps, il arrive qu'elle perde un peu la tête. Mais après tout, est-ce que ça n'arrive pas à beaucoup de personnes? Ce n'est pas votre avis?
Si. Et parfois... Je crois qu'il est bon qu'on vous le rappelle. Merci.
Alors Manu, tu parlais de l'absence de musique dans Les Oiseaux. Là, en l'occurrence, elle a son importance,
elle est
très connue.
Elle est très présente tout le long. Hein.
Alors c'est...
C'était Psychose.
Oui, avec Anthony Hopkins, un rôle qui lui a un peu trop collé à la peau pour sa carrière. Et puis quand il est question de maman et puis dans un personnage d'Hitchcock, généralement c'est la référence à Psychose. Maintenant, une référence, c'est bien un personnage féminin.
Pourrait-on croire qu'elle ne reviendra plus ? Quelquefois, quand je passe dans le couloir, je crois entendre sonner son pas derrière moi. C'est un pas alerte et net. J'entends ce pas léger très souvent. Et non seulement dans cette chambre, dans toutes les chambres du château. Je l'entends maintenant encore. Vous croyez que les morts reviennent surveiller les vivants?
Non, je ne le pense pas.
Quelquefois, pourtant, j'ai l'impression qu'elle hante les couloirs de Manderley. Et que son fantôme vous surveille tous les deux. Vous êtes fatigué? Eh bien, reposez-vous là une minute.
Oh mon Dieu, quelle angoisse.
Et il s'agit de Rebecca, oui. Un film de 1940.
Donc premier film américain.
Premier film américain après L'Auberge de la Jamaïque, qui était son dernier film anglais.
Et un film avec Laurence Olivier. Un très facile encore.
Vous m'avez appelé Kaplan? Oh, je sais que vous avez de nombreuses identités, mais je veux bien accepter la plus courante. La plus courante? Je m'appelle Thornhill. Roger Thornhill, je n'ai jamais porté d'autre nom. Eh bien, si. Il est évident que vos amis se sont trompés de marchandises lorsqu'ils m'ont obligé à les accompagner. Asseyez-vous donc, monsieur Kaplan. J'ignore qui s'appelle Kaplan, mais ça n'est pas moi. Je suis...
Excusez-moi.
Oui?
Nos invités sont là, chérie.
Occupe-toi d'eux. Je vous rejoins dans quelques minutes.
Alors, Kaplan, Thornhill, ça dure un petit moment, cette histoire.
Et donc, c'est La mort aux trous, film de 1959, avec Cary Grant et Eva Saint-Marie. Et James Mason aussi.
James Mason, effectivement. C'est trouvé. Allez, encore un autre, forcément facile.
Pourquoi êtes-vous furieux? Vous saviez ce que j'allais faire.
Vous croyez?
Il aurait suffi de me dire un seul mot. Non, vous m'avez jeté dans les bras de cet homme.
Je ne vous ai jeté dans les bras de personne.
Votre attitude ne me laissait aucun doute.
On n'a pas à dicter à une femme sa conduite, son cœur la lui dicte.
J'ai presque cru au miracle de la nouvelle Alicia, comme si une femme comme vous pouvait changer.
Oh, mais...
C'est pourquoi je n'ai rien empêché. J'attendais ce que vous alliez faire.
Oui, je devais donner des gages.
C'est ça.
Vous n'avez jamais cru en moi, vous n'avez pas à être déçu.
C'est un grand bonheur qu'il en soit ainsi. Je serais bien à plaindre si je vous avais cru. Où en serais-je si je m'étais dit qu'elle ne deviendra jamais la maîtresse de Sébastien? L'amour l'a transformée.
Si seulement vous m'aviez dit que vous m'aimiez.
Alors, c'est pas la même voix, mais c'est toujours le même acteur. C'est Gary Grant dans...
Les Enchaînés, avec, il me semble, cette scène de baiser culte, parce qu'elle a contourné la censure en faisant durer en fait les baisers extrêmement longtemps, mais de façon sporadique. Ou que ce soit un seul baiser continu. Enfin bref.
D'accord.
C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de montrer un baiser à l'écran plus de 3 secondes.
Et donc là, tu parles de Ingrid Bergman qui embrasse. D'accord. Dernier extrait de ce blind test spécial Hitchcock.
C'est ma propre tombe.
Et comment le savez-vous?
Je le sais.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose de gravé sur la pierre tombale?
Non. Elle est toute neuve. Elle attend.
Et rien d'autre?
Oh, après, ça ne peut être qu'un rêve. Car je vois également un clocher, dont la cloche sonne. Il y a un jardin en dessous. Il semble être en Espagne. Dans un village d'Espagne. Tout s'estompe ensuite.
Y a-t-il un portrait? Voyez-vous un portrait?
Non.
Oh, si je pouvais trouver la clé, le fil conducteur, j'arriverais à grouper tous ces éléments.
Et à résoudre le mystère.
Une tombe, un clocher, c'est facile, Manu.
C'est sûr, froide. Donc.
Qui est en train de consulter ses fiches pour nous donner la date de sortie de ce film.
1958.
Eh bien, c'est trouvé. 2 points. Voilà, ainsi s'achève ce Blind Test spécial Hitchcock. On rappelle que c'était pour la ressortie de Les Oiseaux dans certains cinémas français. D'autres cinémas ont choisi eh bien, de sortir un film français très attendu, Les Garçons Sauvages.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Au début du siècle, en France, 5 adolescents pleins de vices et sans limites morales tuent leur professeur de français au cours d'un jeu sadique qui tourne mal. Jugés et condamnés à faire une sorte de croisière punitive, ils se retrouvent emprisonnés sur un bateau avec le capitaine, personnage sombre et menaçant chargé de les ramener sur le droit chemin. Suite à une mutinerie, ils parviennent à s'échapper et à débarquer sur une île qui semble chargée de pouvoirs magiques. C'est alors que les 5 garçons entament une étrange métamorphose.
Je faisais partie d'une bande. Unis pour le meilleur et surtout pour le pire.
Lâchez-moi !
Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières.
Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes.
On se croyait immortel.
Une hallucination prémonitoire.
La plus belle des hallucinations.
La plus belle des hallucinations.
Alors Bertrand Mandico s'initie un film absolument inclassable, hein, très réjouissant aussi dans le paysage du cinéma français actuel. Pour son premier long métrage, il propose ainsi une adaptation très libre de William Burroughs, aussi proche de Jules Verne que de Ovid, d'un noir et blanc sophistiqué qui bascule parfois vers la couleur. Les Garçons Sauvages est un film foisonnant d'idées, de références, de propositions formelles, un film très dense, refusant tout formatage et donc résolument surprenant. On sent qu'il s'agit aussi d'un film plutôt fauché et la mise en scène n'en est donc que plus inventive. C'est cru, osé, subversif, le film est également assez dense. Peut-être qu'il aurait gagné à être légèrement plus court, mais l'odyssée qu'il propose mérite, c'est vrai, de prendre son temps. L'univers visuel est à la convergence des années 20 et des années 80, convoquant autant Buñuel que Cronenberg ou encore la mythologie grecque, porté par un travail sur le son qui mériterait à lui seul une chronique entière puisque la bande-son a été entièrement retravaillée au montage. Ces garçons sauvages sont en réalité interprétés par des actrices hein, dont les voix sont modifiées, ce qui est assez troublant, menées par Vima Lapons qui sort enfin de ses rôles de comédie indé et qui est sans doute ici la plus incroyable du casting. Le film a été tourné en grande partie sur l'île de la Réunion, magnifiée par le noir et blanc et qui devient devant la caméra de Mandico une entité à part entière, vivante, dangereuse et séduisante, dont les pouvoirs magiques vont transformer les 5 garçons en femmes, car c'est bien cela qui va les mener vers la rédemption. Les Garçons Sauvages est un long songe puissamment érotique dont la vision peut parfois être éprouvante de par sa crudité, le fait que tout soit ainsi érotisé sans le moindre tabou et souvent volontairement dérangeant. Le propos du film n'est finalement pas si important. Le questionnement, notamment sur le transgenre, s'avère assez secondaire au regard de la forme qui est véritablement fascinante puisque c'est finalement le film tout entier qui s'avère transgenre. Mandico dit de son propre film qu'il ne s'agit pas d'un film à thèse, mais d'un objet de désir. Et c'est exactement ce que l'on ressent devant Ces Garçons Sauvages. Moi, je le conseille vraiment parce que c'est très surprenant. Hein. Vraiment, comme film, on ne verra rien de tel cette année en salle.
Non, et puis le film rappelle beaucoup les films de Raoul Ruiz des années 80, comme Les Trois Couronnes du Matelot, en prenant une sorte de structure de conte mêlée à une forme expérimentale. Il y a un côté très simple, je trouve, dans la narration, et qui colle bien à une mise en scène très sophistiquée, finalement.
Premier long métrage aussi pour Marie Garel-Weiss.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Si vous consommez quoi que ce soit pendant votre séjour ici, vous serez immédiatement exclu.
Non mais ça c'est rien, c'est juste pour dormir au début. Ça va pas me tuer non plus.
Il y a un règlement. C'est la dernière fois que je te le dis.
Donc vous, vous êtes nouvelle, donc vous êtes à la vaisselle ce soir. Après ça change tous les jours.
Putain, c'est l'armée ici.
L'armée ou bien autre chose, hein. Nous sommes ici dans un centre de désintoxication pour tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont fait de la consommation de stupéfiants ou d'alcool une routine. Dans ce centre, deux jeunes filles arrivent le même jour, Céleste et Siem. Elles se rencontrent, fusionnent presque, hein. L'une a 19 ans, l'autre en a plutôt 24. Alors ni la trajectoire ni l'univers familial ne sont les mêmes, mais ces deux jeunes filles vont devenir comme des sœurs. Le centre, ça ne durera qu'un temps, hein. Le temps de ne pas respecter la discipline qui doit y régner et le protocole qu'on doit y suivre. Votre amitié, c'est comme la cam, leur dit-on, si vous restez ensemble, vous allez rechuter, leur promettons. Alors, à ce qu'elles appellent l'armée, eh bien, elles préfèrent tenter la vie à deux et tenter eh bien, d'éviter à tout prix la dope en restant ensemble. Mais leur proximité sera-t-elle une chance?
Depuis le début, vous êtes en résistance. Vous pouvez plus rester dans ce centre.
Si tu nous mets dehors, on va rechuter, tu le sais très bien. Aidez-moi juste là. Trouvez-nous quelque chose, n'importe quoi, je vous demande rien d'autre.
Pour deux, c'est carrément impossible.
Et je me débrouillerai. Je fais rien sans toi.
Je sais pas si je vous rends service.
Tu crois que ça va finir comment? Tu vois pas qu'ils ont gagné tous? Ils ont raison, on va crever si on reste toutes les deux. Combien de temps il faut faire semblant, en fait? Je fais tout comme il faut faire, et ça change rien. Je ressens rien.
Tout va aller maintenant.
Histoire d'amour, histoire d'amitié sur fond de désintoxication, c'est ainsi qu'on peut résumer La fête est finie. Un titre qui, lui, résume ironiquement alors l'état dans lequel se retrouve celui qui doit se sevrer, hein, parce que enfin, tout devient gris, finalement. Sans produit. Voilà, les deux héroïnes projetées dans le monde avec cette tentation eh bien, de replonger facilement, c'est d'autant plus facile qu'elles en connaissent bien les codes. Elles savent où trouver des produits le jour, avec qui fricoter pour en trouver le soir. La jeune réalisatrice Marie Garel-Weiss inscrit sa fiction dans le documentaire non seulement sur le centre et les groupes de parole, mais aussi sur les rapports qu'entretient la famille avec leurs proches victimes d'addiction. Alors c'est d'autant plus facile pour la réalisatrice qu'elle a eu affaire à l'addiction une partie de sa vie. Alors ces séquences tournées dans une veine naturaliste ne manque pas d'intérêt. Si chacune des filles raconte une partie de leur trajectoire et que la réalisatrice lance des pistes d'explication, alors on ne saura jamais comment elles sont tombées dans la drogue. Mais ce qui nous occupe pendant cette heure et demie, eh bien c'est l'envie de s'en sortir et la peur de rechuter de ces deux héroïnes plutôt gaies et vives. Filmée souvent caméra épaule, La fête est finie ressemble parfois à un tourbillon, hein, emmené par deux actrices remarquables. Il y a Zita Enro, qu'on avait vue dans Fatima, qui là, en interprétant Siem, est partagée entre la rage, le dédain et la faiblesse. Et puis Clémence Boinard, interprétant Céleste, une jeune fille combative et spontanée qui elle est vraiment, alors, vraiment très forte et qui à mon avis aura peut-être un petit quelque chose, alors pas au prochain César mais en 2019. L'énergie de chacune se cogne, s'interpénètre et font de La fête est finie une leçon de vie plus qu'un film sur la drogue, hein. On apprend plutôt, et c'était le souhait de la réalisatrice même si elle documente le lent processus de guérison, on apprend donc comment l'amitié, une relation forte peut guérir de tous les maux. La fête est finie de Marie Garel-Weiss, c'est en salle depuis le 28 février.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on termine rapidement avec un film de casse, Manu.
On ne peut pas dire que Criminal Squad brille par son scénario qui, dès les premières minutes, marche sur les traces du chef-d'œuvre de Michael Mann, Heat. Alors un gang de braqueurs super entraînés, évidemment des anciens militaires des forces spéciales, va tenter de dévaliser la réserve fédérale de Los Angeles qui détruit chaque jour 120 millions de dollars. Alors ces cambrioleurs de haut vol, hein, qui n'hésitent pas à buter tout ce qui porte une insigne, vont se heurter à une unité d'élite super forte, emmenée par Nick Flanagan, personnage de flic viril gonflé à la testostérone, qui doit plus au jojo des gros bras que produisait la Canon dans les années 80, qu'à Al Pacino dans Heat. Idem pour le méchant, interprété par Pablo Schreiber, plutôt convaincant, mais qui est loin d'avoir l'aura et le charisme de De Niro. Alors le face-à-face inéluctable entre le flic et son double est d'un inintérêt total. Le réalisateur emprunte à Mann sa thématique avec une subtilité éléphantesque. Les flics et les truands ne sont finalement pas si différents, voire identiques au point de les confondre à plusieurs reprises. Alors cette idée est intéressante sur le papier, mais même si traité maintes fois, hein, faut-il encore avoir un point de vue singulier, ne pas simplement nous présenter des individus uniformément antipathiques, vulgaires, pour qui on a zéro empathie. Alors car du coup, on se moque littéralement de ce qui peut bien arriver malgré une certaine efficacité visuelle, notamment lors des séquences de braquage. Alors Gérard Butler, hein, en digne héritier de Steven Seagal et Sylvester Stallone, mais qui ressemble de plus en plus à John Goodman, alors surjoue l'inspecteur bourru et agressif, se moquant des lois, n'hésitant pas une seconde à franchir la ligne rouge pour arriver à ses fins. Évidemment, ce bas de lieutenant trompe sa femme avec des prostituées qui, du coup, demandent le divorce lors de séquences embarrassantes, croulant sous les clichés les plus éculés. Alors, premier long métrage de Christian Dugast, scénariste du très réactionnaire, voire un peu facho d'ailleurs, La Chute de Londres, Criminal Squad se rêve en film d'action couillu, sombre et ambigu, mais n'est au final qu'une grosse baudruche interminable, 2h20 quand même, et sans âme, s'inspirant étrangement dans sa dernière ligne droite d'Usual Suspect de Brian Singer avec un twist final qu'on sent venir à des kilomètres. Donc, un navet.
En résumé, vous pouvez vous abstenir.
Alors, méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Enfin, contrôler qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
À quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
La semaine prochaine, il y aura à nouveau un blind test dans Cinérama. Et puis, Marine, eh bien, tu as au moins vu 2 films.
Oui, je vous parlerai de Féminin Pluriel et d'un film russe qui s'appelle Testanota.
À la semaine prochaine.